Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, après 5 jours de visite au Burkina, la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel a indiqué que l'UE va continuer d'assister le Burkina Faso en matière d'aide au développement et de lutte contre le terrorisme. Au Mali, le président de la transition a décrété 3 jours de deuil national en hommage aux soldats tombés hier à Mondoro. L'attaque a fait 27 soldats tués, 33 blessés, 7 sont portés disparus. Et la flamme des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin s'est allumée hier au stade olympique sur fond de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ces Jeux se tiennent en l'absence des sportifs russes et biélorusses, mais bien avec les Ukrainiens. Et notre invitée du jour est Roxane Lankwande, auteur du recueil de nouvelles dénommé Déclic Fatal, sorti officiellement en novembre 2021. Dans ce recueil de nouvelles de 93 pages, elle dépeint la situation de précarité de la vie des femmes africaines en général et celle des Burkinabés en particulier. L'Union européenne va continuer d'assister le Burkina Faso en matière d'aide au développement et de lutte contre le terrorisme. La représentante spéciale de l'UE pour le Sahel l'a fait savoir au bout d'une visite de 5 jours au Burkina, visite au cours de laquelle elle a eu des échanges avec les nouvelles autorités, mais aussi des acteurs de la société civile. Le point de sa visite a été fait au cours d'une conférence de presse hier vendredi à Ouagadougou. Le point avec Abdulaziz Zoulabou.
Lors de sa rencontre avec le chef de l'État, la représentante de l'Union européenne a insisté dans un premier temps sur la nécessité pour le Burkina de revenir à l'ordre constitutionnel. Elle a également demandé la libération de l'ex-président Roch Kabore. Cependant, l'Union européenne est disposée à accompagner les nouvelles autorités et espère qu'elles procéderont à de nouvelles réformes pour une amélioration de la situation. Emmanuela Del Rey, représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel.
Je pense qu'on peut attendre de la transition de résultats concrets. Certainement, on doit voir si ça va passer et je pense que l'Union européenne restera concentrée sur l'aide au pays, surtout dans les domaines de développement, mais aussi sur la question sécuritaire.
À l'issue des assises nationales, il a été convenu que la transition devait avoir une durée de 3 ans, une durée qui visiblement ne semble pas déranger l'organisation, qui a plutôt le regard tourné vers les résultats. Emmanuela Del Rey.
J'ai parlé avec le président le jour de son investiture et il y avait beaucoup de discussions dans les pays sur cette question et je lui ai demandé comment il est arrivé à cette décision. Ça, c'est la question que j'ai posée. C'est s'il pensait que c'était le produit d'un processus décisionnel condivisé. Il m'a dit oui. Et pour ce qui concerne notre posture vers la question de la durée de la transition, je peux dire que pour nous, ce que c'est vraiment important, c'est les résultats.
Ces 5 jours pour la représentante ont été mis à profit pour un entretien avec certaines organisations de la société civile. Elle est également allée toucher du doigt les réalités que vivent les déplacés internes sur le site de Kaya.
Tougan aussi accueille de nombreux déplacés internes. Selon le ministère en charge de l'action humanitaire, à la date du 13 janvier, la ville comptait à elle seule 11 950 déplacés internes, parmi lesquels environ 7 524 élèves. Et bien à Tougan, dans la province du Soro, les populations attendent beaucoup du nouveau Premier ministre de la Transition, Albert Ouédraogo, nommé jeudi par le président Paul-Henri Damiba. Les populations interrogées pensent que le plus important est que le nouveau Premier ministre s'attaque aux défis actuels. La synthèse des réactions avec Androise Kanadon-Ki.
Cet officiel, Albert Ouédraogo, est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Si jusque-là, l'homme n'est pas connu sur la scène politique, le plus important est qu'il produise des résultats sur le terrain.
Il est assez discret sur le plan politique. Bon, on ne le connaît pas sur le terrain politique comme ça. Il reste à l'attendre pour son nouveau poste, ce qu'il va réaliser.
Je ne connais pas tellement Monsieur Albert Ouédraogo, je ne connais pas tellement son palmarès, mais c'est bien, bon, on leur souhaite bon vent.
S'il y a une situation qui préoccupe aujourd'hui les populations ici à Tougan, c'est bien la question sécuritaire et son corollaire. Le nouveau chef de la primature doit travailler à restaurer la paix et la quiétude.
Dans les problèmes de sécurité, tout le monde sait que nous, on a choisi ici. Nous, on serait seulement la paix là.
Le problème de l'insécurité, il doit vraiment veiller à nous sortir de ce problème. Ce qu'on peut ajouter, c'est le problème de la vie chère. La vie est vraiment très très chère ici. Tout a vraiment augmenté. C'est à lui de faire tout le travail pour nous sortir de ce pétrin.
Pour ces citoyens interrogés, l'origine de celui qui est nommé à la tête du gouvernement importe peu. C'est plutôt les actions concrètes auxquelles il parviendra avec son équipe.
C'est pas que le premier ministre qui vient de sortir vient du Sourou qui nous préoccupe. Quel qu'en soit d'où il vient, quelle qu'en soit l'ethnie et à laquelle il appartient, nous en tout cas, on veut qu'il fasse du bon boulot et qu'il rehausse l'image du Burkina Faso et qu'il nous sorte de cette crise sécuritaire.
En rappel, la crise sécuritaire a occasionné le déplacement de plus de 15 000 personnes au Sourou selon les récentes statistiques. Aussi, toutes les structures éducatives de la province sont fermées à l'exception de celle de la ville de Tougan. Ambroise Canadon qui, Tougan, Radio Omega.
Et des nouvelles autorités qui inscrivent leur gouvernance dans la répression de la fraude et la lutte contre la corruption. Le président du FASO, Paul-Henri Damiba, a annoncé un audit financier général des structures de l'administration publique pour le secrétaire exécutif du RENLAC, le Réseau national de lutte anticorruption. Il faut étendre cet audit à l'Assemblée nationale et à la Défense. Le point avec Pierre Badolo.
L'essentiel pour les Burkinabés est sans aucun doute la préoccupation sécuritaire. Issa Ndaogo, lors de sa prestation de serment, annonce des mesures fortes en plus de son engagement au plan militaire, vient s'ajouter sa volonté d'auditer l'administration. Que pense Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC?
Si le président a commencé à faire des audits sur les EPE, les sociétés d'État, bon, nous pensons qu'il va étendre ça à tous les services, y compris l'Assemblée nationale, la Défense, tous les services qui gèrent le budget de l'État doivent être audités. Donc nous avons accueilli ça avec joie.
Mais que vise l'audit? Une définition simple qui vise à savoir si les services publics sont bien gérés. Si cela n'est pas le cas, que faut-il corriger? Et comment? Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif du RENLAC.
Je pense que de toute façon, on ne pourra pas faire une bonne gouvernance sans auditer. Nous, par exemple, au Réseau national de lutte anti-corruption, chaque année, nous auditons nos comptes.
Assainir l'administration est sans doute une belle aspiration, mais comment s'y prendre dans l'intérêt du plus grand nombre? Sinon, dans celui de tous les Burkinabés, Sagado Nakanabo.
Il faut renforcer la SE, il faut renforcer la Cour des comptes, il faut renforcer la CENTIF. Et nous, en ce qui nous concerne, si nous pouvons avoir des contributions, nous, on n'hésitera pas à le faire. Parce que c'est notre pays à nous tous. Et nous avons intérêt à ce que le pays soit mieux géré qu'il ne l'est actuellement.
L'audit annoncé par le jeune président du FASO serait aussi un moyen efficace pour lutter contre l'insécurité. Si et seulement si cela s'opère dans la transparence et la loyauté.
Même les sécurité dont on parle s'est développée à cause de la mauvaise gestion. Donc, si on veut lutter aussi efficacement contre l'insécurité, il faut assainir la gestion des ministères de la Défense et de la Sécurité.
Pour lui, la solution au plan sécuritaire passe par la résolution de l'équation de l'assainissement des services publics à travers l'audit, même au sein des services de sécurité.
Ils ont pris le pays, ils veulent régler la question de la sécurité. Ils ne pourront pas régler la question de la sécurité s'ils ne sont pas capables d'auditer les services de défense et de sécurité. On a des compétences pour le faire, donc il n'y a pas de raison que je me mette à douter qu'ils ne peuvent pas le faire. Non, ils peuvent le faire. Et je dirais qu'à la matière, qui veut peut.
Tout porte à croire que l'audit est un moyen pour le gouvernement de renforcer les caisses, comme cela a été le cas sous le Conseil national de la transition CNT précédent.
L'Institut national de la santé publique, INSP, et ses affiliés, à savoir l'ONSP, ont tenu un atelier de dissémination des produits de l'information sur la santé hier vendredi à Ouagadougou. Objectif, promouvoir la diffusion et l'utilisation des résultats de recherche en santé. Plus de précisions avec Erwin Bayam et Pierre Badolo.
Le présent atelier vise l'analyse, la synthèse, l'interprétation et la projection des différentes données sanitaires, médicales et économiques. Ces données vont permettre aux décideurs d'aboutir à des résultats optimaux dans la mise en œuvre de leurs programmes sanitaires. Ali Kombari, représentant le secrétaire général du ministère de la Santé.
Nous sommes là pour disséminer des données sur les informations recueillies au niveau du système d'information sanitaire qui va permettre justement de faire un bilan de la situation et pouvoir avoir des données probantes qui nous permettront justement de mieux planifier. Nous les décideurs, nous avons besoin justement de ce type de document-là pour permettre d'avoir vraiment des indicateurs fiables pour mieux assurer justement la planification au niveau du système de santé.
La COVID-19 a bouleversé le programme sanitaire et cela a eu un impact sur plusieurs autres maladies qui constituent des priorités pour l'Institut national de la santé publique, a laissé entendre le directeur général de l'INSP, Dr Hervé Yen.
Actuellement, nous faisons face traditionnellement à cette crise sanitaire de la COVID-19 et qui a eu des impacts sérieux sur le reste des programmes de santé, comme toujours la lutte contre le paludisme, la lutte contre la tuberculose et la lutte donc contre les autres maladies transmissibles comme les hépatites virales, sans oublier les autres maladies chroniques que nous connaissons comme l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiovasculaires.
Créé par une volonté politique afin de contribuer à la protection de la santé de la population, l'INSP est une fusion des 4 structures métiers, à savoir le Centre Muras, le Centre de recherche en santé, NUNA, le Centre national de recherche et de formation sur le paludisme et le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. À cela vient s'ajouter 2 nouvelles structures que sont l'ONSP et le laboratoire Centre de référence LCR.
Et puis la société immobilière Abdul Service International poursuit ses travaux de construction des logements sociaux au profit des acteurs du monde universitaire de Bobo-Dioulasso. À l'issue de la remise des clés de la première phase en septembre 2021, la société avait lancé immédiatement la seconde phase qui abrite près de 1000 logements en compagnie de son président directeur général Abdul Ouedraogo. Des journalistes ont visité le chantier pour voir l'évolution des travaux. Le reportage de Mamou Ouedraogo et Paul Soma.
Dans cette seconde phase des constructions de la cité de la communauté universitaire de Bobo-Dioulasso, les travaux avancent sans interruption. De la maçonnerie en passant par la soudure, la plomberie et la peinture, toutes les équipes sont au rendez-vous pour le respect du délai prévu. Hamza Yanogo, ingénieur des travaux à Abdul Service International.
Pour cette deuxième tranche-là, je dirais que le niveau d'avancement, on pourrait le situer à plus de 70% d'exécution. Les types de logements varient, de logements de type F2, F3 social, F3 semi-fini, F3 économique et les types F4. Les travaux d'aménagement des voies, il y a la Sonabel aussi qui est là et il y a l'ONEA aussi qui continue de faire son extension pour que tout le site là soit alimenté en eau.
De la première à la phase actuelle, ce projet de logements sociaux a connu une forte participation des acteurs du monde universitaire, à en croire le président de la mutuelle des travailleurs de l'université Nazi Boni, Dr Salifou Ouedraogo.
Il y a eu un engouement très grand par rapport à ce site-là. Et c'est l'un des meilleurs sites des agences immobilières du Burkina Faso. Nous avons commencé à 150 logements, on est allé à 800 et aujourd'hui on a plus de 1000 pour la deuxième phase.
Les logements de la première phase, en majorité occupés, sont bien appréciés par les bénéficiaires.
Arnaud Sibnoga Nassar. Ça fait un mois et demi bientôt que je suis venu avec ma famille pour en janvier. Depuis lors, vraiment, dans l'ensemble, tout se passe bien.
Un motif de satisfaction pour le président, directeur général de la société Abdul Service International, Abdullah Ouedraogo.
Si nos partenaires, l'université Nazi Boni, sont satisfaits, moi je dois vraiment être un patron vraiment comblé. Je suis très content parce que ça permet quand même de voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et encore aussi, la promotion immobilière, ce n'est pas du tapage. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain et puis on voit la réalité, tous ceux qui enlèvent leur argent, ça encourage les financiers.
Les coûts des différents types de standing de cette seconde phase varient entre 9 et 40 millions de francs CFA, en croit les services techniques de Abdul Service International. Paul Soba, Bobo, Omega, Média.
L'actualité internationale nous conduit au Mali. 27 soldats tués, 33 blessés, dont 21 grièvement et 7 portés disparus hier vendredi. C'est le bilan provisoire officiel de l'attaque de Mondoro dans le cercle de Douanza, région de Mopti. Selon le communiqué du gouvernement, 47 terroristes ont été neutralisés dans la matinée et 23 lors de ratissage dans l'après-midi. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés selon le gouvernement. Des sources sources concordantes plutôt évoquaient le chiffre d'au moins 40 militaires tués dans cette attaque. Et comme annoncé en titre, suite à cette attaque, le président de la transition a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce samedi 5 mars 2022 à 0 h sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux éléments des forces armées et de sécurité tombés hier dans la localité de Mondoro. Omega Sport. La flamme des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin s'est allumée hier au stade olympique sur fond de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Paix, c'est par ce cri que le président du Comité international paralympique, Andrew Parson, a conclu son discours d'ouverture de la 13e édition des Jeux paralympiques qui a débuté hier vendredi, près d'une semaine après l'invasion russe en Ukraine. La cérémonie s'est ouverte sous les yeux du président chinois Xi Jinping et en l'absence des sportifs russes et biélorusses, mais bien avec des Ukrainiens qui se sont présentés point levé dans le stade sous les applaudissements un peu plus nourris du public.
L'invité de la rédaction.
Notre invité du jour est Roxane Lancoindé, auteur du recueil de nouvelles dénommé « Déclic fatal » sorti officiellement en novembre 2021. Dans ce recueil de nouvelles de 93 pages réparties en 7 chapitres, elle dépeint la situation de précarité de la vie des femmes africaines en général et celle du Burkina en particulier. Dans cette interview accordée à Radio Méga, l'auteur revient sur ses premiers pas dans l'écriture et les difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'édition de son recueil. Roxane Lancoindé répond aux questions de Marina Traoré.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez dédicacé en novembre un ouvrage qui a pour titre « Déclic fatal ». En quelques mots, « Déclic fatal » raconte quoi ?
« Déclic fatal » est le titre de la première nouvelle en réalité. Donc cet ouvrage l'a hérité du titre de la première nouvelle. Et ce titre-là colle tellement à ce que j'ai voulu exprimer que je l'ai gardé. Donc, « Déclic fatal », c'est le déclic de ces femmes-là en ce début de siècle. Alors, « Déclic fatal » est un recueil de 7 nouvelles. On a pour habitude de dire « 7 nouvelles, 7 misères », et une femme au centre de chaque nouvelle.
D'où vous est venue cette inspiration-là ?
De la vie de tous les jours, de certaines situations vécues par des personnes que je ne connais pas personnellement, mais des histoires entendues par-ci, par-là. Donc, certaines de ces nouvelles-là sont tirées de faits réels, donc le fond est souvent vrai, même si ce qui est du reste, les noms et tout, c'est de l'inventer.
Pourquoi avoir décidé de mettre l'accent sur la femme ?
Bon, déjà parce que les gens ont pour habitude de dire que je suis féministe, mais moi, je me décris comme humaniste, parce que pour moi, les droits des femmes sont les droits des hommes. Et justement, il y a un problème parce que beaucoup ont du mal à le comprendre. Donc, il fallait quand même mettre le doigt sur certaines réalités, narrer certains faits afin de provoquer un déclic.
Vous l'avez dit, l'objectif, c'était de provoquer un déclic. Ça nous renvoie au titre, un déclic fatal. C'est vrai que ça tique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi déclic fatal ?
Alors, il va falloir que je vous conte un peu l'histoire. Donc, c'est l'histoire de la vieille Sita. Voici une femme vieillie avant l'âge à cause de tous ces problèmes-là, tout ce poids qu'elle a dû porter parce qu'elle est une femme dans une société misogyne dans laquelle elle a évolué, elle a grandi. Donc, ça a commencé par la perte de sa maman quand elle venait au monde, l'excision, le fait qu'elle n'aille pas à l'école, un mariage forcé à un homme pourtant éclairé, instituteur, qui après l'a maltraité, c'était des violences, c'était des infidélités, ça allait tellement loin que ça lui arrivait d'amener ses maîtresses dans le lit conjugal. Ils ont eu une fille, ils n'en voulaient pas parce que c'était une fille, donc elle était aussi délaissée, la mère pareil, elle devait se débrouiller toute seule. Puis il y a eu ce soir-là où il a voulu se débarrasser de Sita et garder quand même cette petite-là qu'il n'aimait pas vraiment. Du coup, en l'espace de quelques secondes, Sita a eu un déclic. Disons qu'elle a vu toute sa vie défiler. Du coup, elle a ramassé une pierre qui traînait là. Elle a assommé son époux, qui est mort sur le coup. Donc, d'où le déclic fatal. C'est-à-dire que tout s'est passé très vite. Il y a eu le déclic et immédiatement, il y a eu cette mauvaise réaction-là qui a suivi. Après, j'espère que les déclics ne vont pas toujours tourner comme ça, on l'espère bien. Mais là, c'est ça l'histoire en fait.
Aujourd'hui, dit-on, les jeunes lisent de moins en moins. Vous êtes jeune, mais vous avez cet amour pour l'écriture. D'où est-ce que ça vient?
Il faut dire que moi, j'ai commencé à lire dès le primaire. Et ça fait que à force de lire, en fait, en sixième, j'ai commencé à écrire. Ça commençait par des petits contes, parce que j'aimais bien les contes. Après, c'était des poèmes. Ça m'arrivait même d'écrire des poèmes pour mes camarades de classe. Puis, en grandissant, c'est devenu plus sérieux et j'ai commencé à écrire des clics fatales en première.
Plusieurs écrivains ont parfois des soucis pour faire paraître leurs ouvrages, notamment des problèmes d'édition et tout. Est-ce que ça a été votre cas?
Ça a été un calvaire. Je me souviens qu'à partir de la première année, quand j'ai décidé de publier cette œuvre-là, j'ai commencé à taper un peu à toutes les portes pour voir déjà si je pouvais avoir l'accompagnement d'une maison d'édition. Et là, ça a été une énorme déception parce que déjà, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de maison d'édition. J'ai continué à fouiller un peu partout jusqu'à ce qu'on me recommande une maison d'édition. Et ça a été vraiment un calvaire parce que ça a duré quoi, 6 ans. Parce que ce n'était pas seulement un problème financier, ce n'était même pas dû à ça, parce que je me suis débrouillée pour trouver cet argent-là. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de soucis. On a dû changer les maquettes plusieurs fois. L'édition ici, ce n'est pas facile, elle est presque inexistante d'ailleurs. C'est plus du commerce, on va dire. Donc, déjà, il faut avoir de l'argent. Et avec de l'argent aussi, il y a quand même toutes ces pages noires-là qu'il va falloir faire avec.
Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour écouler cet ouvrage-là?
Déjà, je tiens à remercier mes lecteurs parce que Déclic Fatal a été très bien accueilli. Et la stratégie, ça reste les réseaux sociaux, les médias comme vous qui nous donnez, qui nous ouvrez vos portes, les étudiants, les élèves. Donc, c'est vraiment une communication du terrain. Les réseaux sociaux aident vraiment beaucoup.
Travaillez-vous sur de nouveaux projets actuellement?
Actuellement, je travaille sur le prochain à paraître. Dieu voulant, le prochain livre paraîtra cette année même. Et aussi, je travaille avec les aînés des écrivains de la région du Lest. Donc, ensemble, on travaille sur un ouvrage qui sera vraiment dédié au pays et plus particulièrement à la région de l'Est qui vit des moments difficiles.
Merci.
Merci à vous.
Roxane Lankwande, auteure du recueil de nouvelles « Déclic fatal », répondait aux questions de Marina Traoré. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Radio Méga.
Radio Méga, l'info en direct.